Martine Delvaux est professeure, elle aussi, au département d'études littéraires de l'UQAM. Elle s'est intéressée à la littérature française contemporaine, notamment, si je ne me trompe pas, avec une thèse consacrée à Marguerite Duras.
Non,
à des travaux. Je me trompe.
C'est pas grave.
À des travaux concernant Marguerite Duras. Oui. Vous avez beaucoup travaillé sur la question du témoignage et de l'autobiographie, notamment concernant la Shoah. Vous vous êtes aussi intéressé au problème des rapports des femmes avec la psychiatrie et la souffrance psychique. Vous êtes à l'UQAM depuis 1994.
16. Vous me vieillissez.
Je suis confus. Je suis confus. Vous êtes très investi, comme notre collègue Madame Laurie Saint-Martin, dans l'Institut de recherche des études féminines. Et vous êtes...
Pas comme Laurie.
Pas comme.
Mais ça va.
Aussi.
Je vous corrige au fur et à mesure. Je suis vraiment inélégante.
Pas du tout. Pas du tout. Vous rectifiez ce qui doit l'être. Et vous êtes vous-même romancière. Voilà, je vous donne la parole pour une communication intitulée « Regardez pour voir ».
Et comme ma communication porte sur le commandement, l'injonction et la correction, donc vous voyez, j'ai mis la table. J'ai le rhume du siècle, fait que si j'étouffe, pardonnez-moi. J'avais commencé à écrire mon texte, puis Gab Roy a publié ses conneries. Puis 343 salauds sont apparus sur la scène. Salauds de leur propre aveu, hein, ils ont au moins compris ça. Et donc, je l'ai repris, mon texte. Je n'en pouvais plus de ça, de cette cohabitation légère, frivole, de ce montage donné comme innocent de la violence et du sexe. D'un côté, un blogueur plutôt minable qui trouve rigolo de décrire comment il soumettrait sexuellement une femme, en l'occurrence une femme publique, comment il la prendrait de force brutalement, lui imposerait son sexe pour la libérer, laisse-t-il entendre, d'une vie conjugale missionnaire. De l'autre, 19 mecs qui, sous prétexte de défendre la liberté des travailleuses du sexe, défendent le privilège de consommer comme ils le veulent, quand ils le veulent, des femmes mises à leur disposition par une conjoncture qui donne aux riches, aux people, aux hommes bien nés ou bien placés, le gros bout du bâton. Et ce privilège, ils le défendent au nom de la liberté, de la littérature et de l'intimité. C'est une citation, bien sûr, du manifeste. Tout part de là. Au nom de quelle liberté et de quelle littérature? Devant les mots « violence » et « érotisme », je m'étais sentie muette. Pour moi, c'était une chose impossible. Le théâtre sadomasochiste des autres n'était pas à moi. C'était une chose qu'on m'imposait, auquel on me commandait d'assister. Comme les 19 salauds qui s'étaient imposés sur la place publique pour s'approprier les femmes et la littérature en disant haut et fort « nous sommes des hommes » et qui ne savaient au fond absolument rien sur le travail du sexe ou la place des femmes ou ce que c'est qu'être une femme. Rien d'autre que ce qui les concerne et leur sert, eux, ces hétéros, beaux, fréacs, machistes, ringards, obsédés, comme s'en plaint Frédéric Bédé lui-même, visés par nous, féministes. J'étais sidérée. C'est pour cette raison, sans doute, que j'ai pensé à Charlotte Delbo, résistante, déportée, qui, entre son retour d'Auschwitz et sa mort en 1985, n'a écrit que sur sa déportation. Ce sont ces mots à elle qui me sont revenus en tête. « Oh, vous qui savez, écrit Delbo. Saviez-vous que la souffrance n'a pas de limite, l'horreur pas de frontières? Le saviez-vous, vous qui savez? » Delbo attaque le soi-disant savoir, un savoir aussi littéraire, comme si on pouvait savoir vraiment, comme si notre façon d'imaginer l'expérience des camps pouvait jamais en traduire la réalité. La soif des récits d'explorateurs qui ont soif trois jours, ce chapitre pathétique des livres d'enfants où on finit par trouver l'oasis et soudain ne plus avoir soif, ce récit-là n'a rien à voir avec la soif des camps. Il y a des gens qui disent « j'ai soif ». Ils entrent dans un café et ils commandent une bière. C'est une citation de Delbo. La soif dont parle Delbo n'a rien à voir avec ça. Elle est incompréhensible, invisible. Mais Delbo nous la montre, comme d'autres choses qu'elle nous fait voir dans des fragments qui sont des tableaux, des scènes. Des scènes comme celles que jouent les enfants du commandant nazi dans ce théâtre que devient l'enceinte du camp. Deux garçons blonds, deux frères, le petit joue le détenu, le grand imite son père, le commandant. Il hurle « vite, plus vite, mais allez !» en frappant à chaque commandement. Et à la fin, devant le petit qui s'est abattu sur le gazon pour faire le mort, il s'éloigne, raide, satisfait et dégoûté, en jetant un ordre au crématorium. Me sont revenus aussi des mots de Marguerite Duras dans « La maladie de la mort ». ce que son personnage narrateur dit à cet homme qui n'aime pas les femmes, comment il lui dicte ce qu'il est en train de faire avec cette femme qu'il paye pour l'observer, la manipuler, la prendre, cette femme aux yeux fermés qu'il regarde sans cesse. « Vous regardez », écrit Duras. Et Delbo, à trois reprises dans « Aucun de nous ne reviendra », « Essayez de regarder, essayez pour voir. » Comme si elle disait « Essayez de regarder pour voir si vous en êtes capable. Je vous enjoins de regarder même si vous n'en êtes pas capable, même si c'est impossible, parce que ce sont des choses qui dépassent votre regard, des choses que vous pensez savoir, mais que vous ne savez pas. » L'écart entre Duras et Delbo, c'est celui entre l'indicatif et l'impératif, un écart apparent, du moins. Mais comme elles sont toutes les deux des femmes de théâtre, il faut lire dans les deux cas une forme de commandement qui relève des indications scéniques, des didascalies, des ordres donnés par un metteur en scène à des acteurs, par des auteurs à des lecteurs. C'est là que la littérature peut-être peut quelque chose, qu'elle peut elle aussi donner des ordres qui n'ont rien à voir avec ceux des commandants et des salauds qui disent « savoir le monde ». La soif ne s'étanche pas, les commandements n'arrêtent pas de pleuvoir à l'intérieur du camp. De même chez Christine Angot, dans une semaine de vacances. « Continue, ordonne l'homme, le père, à la jeune fille. Je t'en prie, continue. » Christine Angot, au sujet d'une semaine de vacances, dit que le livre montre cette chose apparemment sue qu'elle inceste, cette chose que tout le monde sait, mais qu'en fait personne ne sait. Parce que est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire, l'inceste, les gestes que ça implique, ce que sent une personne en train d'être tuée? La violence se dit dans la répétition incessante des mêmes ordres, des mêmes gestes, la reprise des mêmes scènes, dans un évidement de l'autre à coup de commandement. C'est pour cette raison aussi que le raconter une fois n'est pas suffisant et que la littérature doit se faire commandement, commandement contre le commandement, qu'elle peut jouer le jeu de ce commandement qui n'en finit plus pour le vider lui aussi. Le commandement commande une relation directe, non métaphorique, non figurée, entre le langage et le monde. Je pense ici au texte récent d'Agamben sur le commandement. Contrairement à l'indicatif qui relève du « est » et qui décrit, explique, régissant ainsi le champ de la philosophie et de la science, l'impératif « soi » est le mode du droit, de la religion et de la magie. C'est aussi ce qui régit le jeu, comme dans le tableau de Delbo, un jeu collé dans ce cas sur la réalité. « Soit le détenu, je serai le commandant ». J'ai envie de dire que c'est le mode de la littérature des salauds qui écrivent « Nous sommes des hommes, soyez des prostituées ». Mais c'est aussi le mode de la littérature qui veut dire autre chose, qui veut répéter parce que le dire une fois n'est pas suffisant. Si, comme le suggère Agamben, un pouvoir ne cesse d'exister que lorsqu'il renonce à donner des ordres, la littérature peut jouer au jeu du commandement et parasiter les ordres, perturber le commandement. C'est pour cette raison que Delbo montre les scènes, puis les répète, répète l'injonction, façon de traduire un tout petit peu cette expérience des camps qu'on ne sait pas malgré toutes les images qu'on a vues, lui rendre l'appareil. Delbo nous commande d'essayer de voir, même si, c'est-à-dire parce que c'est impossible. Et on ouvre, qu'on ouvre le livre ou non, l'ordre demeure, mais l'image, elle aussi, sans relâche, comme une hantise, une commande, à laquelle Delbo revient sans cesse, nous amenant avec elle, comme le personnage de Lucia dans « Le portier de nuit » de Liliana Cavani. Dans ce long métrage controversé, pardon, jugé coupable d'un mariage pervers entre érotisme et fétichisme nazi, est-ce que Cavani ne nous commande pas, elle aussi, à la manière de Delbo, de regarder des scènes irregardables? Et ce faisant, est-ce qu'elle ne commande pas à la littérature ou au cinéma de retourner le regard des salauds, de leur retourner l'image de leur commandement? Cavani n'est pas une survivante des camps. Elle fait son film à la suite d'une série d'interviews avec des résistantes qui ont été déportées. Les propos de deux d'entre elles marquent son imaginaire. L'une parce qu'elle raconte avoir quitté sa famille pour échapper au déni ambiant concernant les événements de la Deuxième Guerre. L'autre parce qu'elle racontait retourner passer deux semaines chaque été à Auschwitz. D'une part, donc, le refus de voir, d'autre part, le revoir. Tout le film de Cavani tourne autour du regard, par la reprise incessante et terrifiante d'une même scène. Le commandant nazi regarde, à l'aide d'une caméra, celle qu'il a choisie comme victime et à qui il commandera qu'elle soit sa petite-fille. D'une part, Cavani invente un théâtre au sein duquel le bourreau et celle qu'il a violée, soumise à l'intérieur du camp, sont ramenés l'un à l'autre par hasard dans un grand hôtel de la Vienne d'après-guerre, rejoint la scène concentrationnaire d'une jeune fille soumise au commandant et dont la soumission est le seul moyen de survivre. D'autre part, elle transporte le public, nous, à l'intérieur du camp, par l'entremise de flashbacks qui évoquent des images documentaires ainsi que d'autres images inventées par des cinéastes pour traduire l'expérience concentrationnaire. Jamais Cavani ne nous fait croire que ce qu'on voit, c'est la réalité. Toujours, elle nous rappelle qu'il s'agit du cinéma. Le commandant dans l'enceinte du camp tient dans la main une caméra qu'il tourne sur Lucia comme l'arme à feu avec laquelle il s'amuse à tirer en essayant de l'attraper pour jouer. C'est par le regard qu'il exerce son emprise. C'est par le regard qu'il commande. Et si celui de Charlotte Rampling dans le film est le plus souvent sans expression, c'est parce qu'elle est déjà dans la mort. Cavani nous entraîne donc non pas dans un syndrome de Stockholm sadomasochiste, ce dont on l'a accusé, un alibi facile pour se donner le droit en tant que public de fermer les yeux sur ce qu'elle montre, mais dans ce que ça veut dire, à quoi ça ressemble de vivre avec un pistolet sur la tempe. Cavani nous laisse aux prises avec une cruauté intolérable, cette scène sans rédemption, un face-à-face entre victime et bourreau qui est une reprise, un rejeu, sans possibilité de s'en sortir, sans vengeance ni pardon. La scène la plus connue de Portier de nuit est celle où Charlotte Rampling, en Lucia, poitrine nue avec un pantalon d'officier, casqué et ganté, chante Marlène Dietrich dans une salle du camp transformée en cabaret. Les nazis assis autour d'elle sont masqués ou maquillés de blanc, on dirait des fantômes ou des morts vivants. Quand Lucia cesse de chanter, un officier lui apporte une boîte de carton en guise de cadeau. Elle l'ouvre et y trouve la tête d'un déporté. C'est le bourreau, Max, qui raconte cette histoire comme un flashback, des années plus tard, à une cliente nazie de l'hôtel où il est portier de nuit. « C'est une histoire biblique, dit-il en jubilant, pris dans la jouissance sadique du souvenir. » Il explique que devant le souhait de Lucia qu'on change de baraque un détenu qui l'importunait, l'histoire de Salomé m'est venue en tête, je n'ai pas pu résister. Alors que Salomé commande à Hérode de recevoir la tête du Baptiste, Lucia n'a rien commandé. Ce cadeau n'en est pas un, c'est une menace. La tête tranchée est ce qui attend Lucia si elle ne joue pas le rôle qui lui est à elle commandé. De façon semblable, la jeune fille dans une semaine de vacances, amalgamée par son père, à l'épouse et à la maîtresse de celui-ci, son corps morcelé et comparé à des aliments, est l'enfant d'un père qui commande sa transformation en chose à consommer, en lui commandant à elle des gestes et en l'enjoignant à les répéter. De la même façon qu'on appuie sur des commandes, qu'on passe des commandes pour acheter un repas ou des objets, ou qu'on commande aux enfants de bien se conduire. Toutes ces versions du commandement sont présentes dans une semaine de vacances. Et la littérature, ils se cachent dans la littérature. La littérature est leur alibi. Un père linguiste qui corrige sans cesse la langue de son enfant, qui en commande la perfection. Ce lecteur de langues étrangères, ce lecteur du Monde et de la revue Vie et langage, cet amateur de neuf langues qui corrige la jeune fille quand elle dit d'un homme que c'est un con, parce qu'employer ce mot dans ce sens-là, c'est parler contre les femmes. Cet homme qui dit qu'il va arrêter et qui continue à dire à l'enfant de continuer, qui lui demande de dire « je t'aime, papa » et de le répéter. Et elle qui perd la parole, qui bute, s'en mêle, tombe dans le silence. Sur sa table de nuit, un livre de Gilbert Cesbron, « Chien perdu sans collier ». Et puis un jour, la jeune fille a recours à la littérature. Elle quitte la route dictée par le père. Coincée par le sexe de son père entre le volant et le levier de vitesse, elle se relève pour raconter un rêve. C'est ainsi qu'elle devient à ses yeux odieuse, impolie, sans aucun tact, qu'elle manque de délicatesse. Et je vais citer un long passage d'une semaine de vacances où il y a cette scène. Sur le chemin du retour, dans la voiture, il lui demande s'il se souvient comment s'appellent les deux côtés d'une montagne. Puis il ouvre le bouton de son pantalon, lui demande de descendre la fermeture éclair de sa braguette et de le sucer tout doucement pendant qu'il conduit. Il pleut. Les essuie-glaces de droite à gauche accompagnent les mouvements qu'elle fait avec sa bouche, de haut en bas, de bas en haut. Elle a des crampes dans les maxillaires, sa position par-dessus la boîte de vitesse n'est pas confortable. Tout à coup, elle repense au rêve qu'elle a fait dans la nuit. Elle se redresse pour le raconter, se réinstalle sur son siège, elle hésite un peu. Mais elle le raconte. Il lui dit qu'il retourne tout de suite chercher ses affaires dans la maison. Que lui va aller à Carcassonne et qu'il la reconduit à la gare pour qu'elle prenne un train et rentre chez elle. Il lui dit qu'il a énervé, qu'elle a été odieuse, qu'elle n'a aucun tact, qu'elle dit des choses à la limite de l'incorrection. Il l'embrasse sur les deux joues, lui dit qu'elle n'a qu'à lui écrire, que pour l'instant il est énervé, en colère, qu'il préfère être seul plutôt qu'avec quelqu'un qui manque à ce point-là de délicatesse. Lui raconte un rêve insultant, que là il ne peut plus la supporter, qu'il ne peut plus la voir pour une durée indéterminée. Le père retourne contre sa fille, le seul élan qu'il lui reste pour survivre, le rêve. Le père tient les commandes. Il garde le cap sur la voiture et reste sur la route après que sa fille lui a raconté le rêve. Ils se mettent même à accélérer pour pouvoir faire marche arrière et revenir sur leur projet. Ils n'iront pas à Carcassonne comme prévu. Ils la ramènent à la gare pour qu'elle rentre chez elle. Ils la punissent. Elle a refusé d'obéir aux ordres? Très bien, le voyage est terminé. Ils l'abandonnent à la gare, 3 heures d'attente, elle n'a pas d'argent, elle a faim. La seule chose familière qui lui reste, c'est son sac, et c'est à lui qu'elle parle, en attendant le train. Pour pouvoir parler, la jeune fille a dû se relever et se défaire de ce crime qu'elle avait dans la tête et dans la bouche, pour reprendre les mots de Duras dans l'homme assis dans le couloir. Ce crime, tant de fois écrit, répété, commandé, et la jeune fille cherche une autre littérature. C'est pour ça que, sans pause, sans répit, Angot place les lecteurs sous emprise, avec la jeune fille. On est dans la voiture avec elle, sur cette route qui n'en finit pas. On tente de se relever avec elle, et avec elle, on voit le père garder la route. On entend sans arrêt cette pluie de commandes. On parle sans cesse d'inceste, dit Angot, mais voit-on vraiment ce que ça veut dire? C'est pour ça qu'elle a écrit le livre. On condamne l'inceste, mais toute une culture nous commande sans cesse à en suivre le chemin. C'est ce chemin-là que reproduit l'enchaînement des scènes dans une semaine de vacances. Comment ça se compose, comment ça se décompose, comment ça se suit, comment ça s'entraîne. Ce sont les mots d'Angot. Et comment ces commandes imposent le silence. Comment ça ne sert à rien de dire à la jeune fille qu'elle doit parler, parce que ce commandement qu'elle inceste a pour fonction de cimenter les mots. Parce que la vraie violence se trouve dans la punition subie quand on se redresse du siège d'une voiture pour quitter un tout petit peu la topographie de l'emprise, pour s'opposer un tant soit peu au commandement. Parce que la vraie violence se trouve dans l'interdiction du rêve, c'est-à-dire d'une littérature qui n'est pas celle que les salauds s'approprient en la prenant avec eux sur le chemin de la violence ordinaire. Une littérature qui est aussi le moyen d'en commander le reflet et l'image de Salomé dans le film de Cavani, tout comme la fragmentation du corps de la jeune fille dans le récit d'Angot rappelle une autre tête coupée, celle de Méduse, tranchée par Persée. Méduse, c'est la capacité à voir les images, à les regarder en face. Ce qu'Angot et Cavani disent, c'est qu'il n'y a pas une seule image montrée et vue une fois pour toutes, comme il y aurait un seul commandement. Au contraire, l'image, comme le commandement, est une chose répétée, reproduite, comme Méduse dans le bouclier. De la perversion sexuelle, donc, à la perversio de l'image, c'est-à-dire à son détournement. Regarder une image pour tenter d'en voir une autre. S'il faut regarder, c'est parce que le commandement, peut-être, ne perdra de sa puissance que quand on aura vu les choses en face. C'est ainsi qu'il faut entendre les mots de Delbault, moins comme l'aveu d'une impossibilité, vous ne pouvez pas voir, que l'injonction à sans cesse essayer. Essayez de regarder pour voir, dit-elle. Essayez de regarder par l'entremise de ce bouclier qu'est la littérature. Et de façon analogue chez Angot, dans l'interview, comme si les victimes des nazis, ça suffisait de le dire une fois. Si j'avais vécu les camps, j'en parlerais tout le temps et à tout le monde, jusqu'à temps que l'un d'entre vous se lève et aille tuer le commandant du camp. L'écrivaine commande d'entendre le commandement, de continuer à l'entendre et à le voir, voir ce que c'est, ce que ça veut dire, inceste, cette chose qu'on croit savoir. À force de considérer les crimes nazis comme irreprésentables et le massacre de millions d'innocents comme définitivement inintelligible, écrivait Wolfgang Sofsky, on a fini par ne plus se demander comment fonctionnaient les camps. Et c'est justement là que s'inscrivent Cavani et Angot. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? C'est une question que les salauds ne se posent pas, tout en gonçant qu'ils sont dans leur littérature et leur liberté. La répétition est cruelle, c'est la pierre de touche de l'enfermement. Des mots comme un camp, une voiture qu'on ne peut pas quitter. Et la répétition est sexuelle. Les mots du sexe sont ceux de la répétition et du commandement. Dans les camps, comme le souligne Didier Huberman, le même adjectif, Sonder, désignait et la mort, comme dans Sonder Commando, le commando spécial en charge de l'élimination des déportés, et le sexe, comme dans Sonderbau, qui désignait le bordel. C'est ce croisement qu'exploite Cavani, montant, comme dans Montage au cinéma, côte à côte la mort et le sexe dans la scène de cabaret. C'est aussi ce que fait Angot en montrant comment les scènes de l'inceste, leur reprise incessante par le père, ont pour effet de remplacer les mots de l'enfant. D'aucuns ont accusé Cavani de noyer la réalité des camps dans une fable érotique. Mais ce film, ce montage ensemble du sexe et de la violence totalitaire, qui n'a rien à voir avec le théâtre sadomasochiste, c'est le retour brutal d'images qu'on préfère ne pas savoir. Cavani met en garde contre le refus de regarder les choses en face. Elle n'endosse pas cette histoire, elle invente un récit qui a à voir non pas avec l'amour entre une victime et son bourreau, mais avec notre désir à nous de fermer les yeux. L'érotisme, si on peut en parler dans ces termes, est montré ici comme la pierre de touche du fascisme. Et à la dernière page d'une semaine de vacances, c'est l'extrême droite qui mobilise ses troupes en France. En France. Quel beau lapsus. En Espagne. Angot, Cavani d'un côté, les salauds de l'autre, qui prennent tout, les corps et la littérature. au nom de leur liberté. Il y en a, écrit Angot en réaction au manifeste des 343 salauds, qui ne connaissent que la liberté des autres, l'intimité des autres, la littérature des autres. Ils ont été tellement détruits qu'ils n'ont pas de consentement à eux, de corps à eux. Ils n'ont rien à eux pour se libérer des salauds. Vous comprenez ça, messieurs les signataires, ou est-ce que vous êtes trop humains pour comprendre, trop libres, trop littéraires? C'est ce sadisme-là qu'exerce l'Académie française des 343 salauds, qui à ce jour ne sont plus 19 et qui n'ont jamais été seulement 343. Et c'est contre lui que certaines femmes écrivent, conjuguant autrement l'impératif qui relie les mots violence, sexe et littérature.